Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la requête des parents de Vincent Lambert. L'arrêt des traitements a commencé ce matin. Dernière semaine de campagne avant le scrutin européen, avec 34 listes qui ont parfois du mal à se faire entendre et des débats particulièrement complexes à organiser. Ford veut supprimer 10% de ses effectifs d'ici fin août. Cela représente 7000 emplois à travers le monde. Le constructeur américain doit faire des économies. L'arrêt des traitements de Vincent Lambert a commencé ce matin. Cela signifie l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielle et l'administration de sédatifs. L'ancien infirmier, en état végétatif depuis 11 ans, devrait donc s'éteindre d'ici quelques jours à une semaine, selon les médecins. Dans son courrier à la famille, le chef du service de soins palliatifs de l'hôpital de Reims disait espérer que les proches sauraient ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui afin que ces moments soient plus paisibles, intimes et personnels. Mais le conflit familial est plus vif que jamais. Pour les parents de Vincent Lambert, cette décision médicale est une folie. Ils ont tenté un dernier recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, requête rejetée cet après-midi. Didier Sicard, ancien président du comité national d'éthique, avait coordonné en 2012 une commission chargée de réfléchir sur la fin de vie. Il estime que la France pourrait prendre exemple sur la Suisse pour résoudre les conflits lorsque le malade n'a pas rédigé de directive anticipée, comme c'est le cas pour Vincent Lambert.
Moi, je pense que la Suisse est assez sage dans ce domaine, en considérant que à partir du moment où le désaccord familial est une potentialité, il faut une hiérarchie. Et que celui ou qui est peut-être le plus proche des vœux de la personne, c'est son conjoint, et puis ensuite ce sont ses enfants, et que les parents font passer, et c'est normal, l'affection, la disparition d'un enfant, c'est quelque chose qui est insupportable à accepter. Donc dans ce domaine, il faudra peut-être une législation en pensant que celui ou celle le plus proche, c'est le conjoint.
Mais pourquoi n'a-t-on pas déjà rédigé cette loi ou ces décrets ?
Parce qu'en France, les questions de la fin de vie sont très maladroitement exprimées. Elles sont souvent radicalisées dans des procédures d'euthanasie à la Benelux, ou bien avec des conservations de la vie à tout prix, au sens religieux du terme. On a de la peine à s'approcher de la réalité des situations. Moi, je suis frappé de voir... par rapport à d'autres pays européens, la faiblesse de l'enseignement universitaire sur la fin de vie, alors que, je me souviens, à Lausanne, le médecin le plus prestigieux de l'hôpital était un médecin de soins palliatifs. Donc, au fond, la médecine palliative est une médecine précieuse, exigeante, complexe, mais qui doit avoir un véritable statut de médecine et non pas une médecine du dernier moment. Alors, effectivement, pour Vincent Lambert... à partir du moment où on n'hydrate plus, on ne nourrit plus, qui sont considérés par la loi comme des soins, puisqu'il est administré par du poids médical, perfusion, afin d'éviter que le corps se décompose devant un entourage affolé, etc., la mise en route d'une sédation qui va accélérer le processus et qui va faire que l'endormissement va aboutir à la mort, mais de façon très paisible. Ça peut mettre un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, mais de façon très paisible.
Didier Sicard au micro de Tara Schlegel. Dans un message publié sur Twitter, le pape François appelle à prier pour Vincent Lambert. « Protégeons toujours la vie, don de Dieu, du début à la fin naturelle », écrit-il, « ne cédons pas à la culture du déchet ». En France, des médecins spécialistes des soins palliatifs regrettent l'amalgame fait selon eux entre la décision d'arrêt des traitements de Vincent Lambert et une euthanasie. La Société française des soins palliatifs rappelle que chaque situation est singulière et appelle à ne pas tirer d'enseignements généraux de la situation de Vincent Lambert. Elle précise « un arrêt des traitement de maintien en vie ne signifie nullement un arrêt des soins, bien au contraire. Il est suivi d'une intensification des soins avec une attention particulière portée au confort du patient pour lutter contre la souffrance. Dans son dernier rapport annuel, le défenseur des droits dressait le constat d'un recul sans précédent des libertés fondamentales et de l'accès aux droits en France. Un constat que vient confirmer le premier baromètre consacré à ce sujet à l'initiative du Conseil national des barreaux. Ce sondage, présenté dans le cadre de la Semaine du droit, confirme l'inquiétude des Français dans ce domaine. Les trois quarts des personnes interrogées estiment que les libertés et les droits fondamentaux se sont dégradés ces dernières années et que l'accès aux droits est de plus en plus difficile. Mais cette enquête, Florence Turc, confirme, révèle également quelques paradoxes.
Oui, des Français sévères sur la situation actuelle et ce qu'ils considèrent comme une dégradation de l'accès aux droits fondamentaux. Comment y remédier ? L'étude a également sondé les participants et la très grande majorité estime qu'il faut renforcer le rôle des professionnels. Pourtant, dans la pratique, ils ne sont qu'un sur dix à se tourner vers un avocat, préférant de très loin commencer par consulter des forums sur Internet. Mais second paradoxe, plus de la moitié ne fait pas confiance au site juridique pour résoudre ces problèmes. D'où la nécessité pour Christiane Ferralschul, la présidente du Conseil national des barreaux, de développer et de faire connaître la présence des avocats sur des sites officiellement référencés.
Nous avons la première Legal Tech de France avec 12 000 avocats qui offrent des services entièrement labellisés avec la marque avocat Inside, donc des garanties qui sont importantes pour le citoyen. Et pour répondre à cette critique ou ce sentiment qu'ils peuvent éprouver que l'avocat est difficile d'accès, montrer que il est possible d'avoir des consultations en ligne via avocat.fr, qu'il est possible de prendre des rendez-vous, que tout est fait pour simplifier l'accès et que les avocats se positionnent très bien sur ce terrain et qu'il faut le faire savoir.
Un site officiel qui offre aussi une plus grande transparence sur les honoraires pratiqués, souvent perçus par les particuliers comme trop complexes ou trop coûteux. En revanche, une majorité de Français semble ouverte au principe des visio-audiences. 57% approuvent aussi le principe pour un particulier de saisir un juge directement sur Internet, comme ce sera bientôt possible pour certains litiges.
Florence Turm, une nouvelle étape dans l'affaire du siècle. Après avoir recueilli plus de 2 millions de signatures pour introduire un recours contre l'État français pour inaction climatique, les 4 ONG à l'origine de la pétition, Greenpeace France, la Fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à tous et Oxfam France ont remis ce matin les derniers documents de ce recours en justice déposé le 14 mars dernier. Bonsoir Solène Cressant.
Bonsoir.
Ce mémoire complémentaire d'une centaine de pages cite les manquements de l'État en matière climatique et d'après les associations, ils sont nombreux.
Des centaines et des centaines d'heures de travail pour les juristes des quatre associations. Ils détaillent les obligations que l'État n'a pas mises en œuvre depuis notamment le premier rapport du GIEC de 1990, mais aussi après l'accord de Paris en 2015. Elles vont des énergies renouvelables à l'agriculture, nous explique Claire Gauthier, responsable climat à la Fondation Nicolas Hulot.
Les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre de la France, qui sont fixés chaque année, sont dépassés depuis 2015. Ce qui crée un surplus d'émissions pour la France entre 2015 et 2018, juste sur ces trois années, de 4%. Alors ça peut sembler anodin, 4%, mais 4% d'émissions en plus dans un contexte d'urgence climatique extrême, c'est absolument inacceptable.
Et des exemples comme celui-là, il y en a sur 40 pages. L'objectif est donc de prouver au juge du tribunal administratif que les faits reprochés à l'État sont bien là. C'est la pièce centrale du recours judiciaire, rappelle le directeur de Greenpeace France, Jean-François Julliard.
Ça veut dire que maintenant, l'affaire du siècle est entièrement entre les mains du juge. Ensuite, l'État a un certain temps pour pouvoir y répondre et il va y avoir comme ça un jeu d'échange entre l'État et les quatre organisations co-requérantes. Et on espère que le juge, à la fin, va enjoindre l'État à prendre toute mesure utile pour justement limiter ce dérèglement climatique.
Et les associations peuvent espérer une issue identique à celle des Pays-Bas, premier pays où l'État a été condamné à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2015, Laura Monnier est l'une des juristes de Greenpeace.
Et ça peut créer un effet de levier, puisque c'est une problématique globale. Tous les juges vont pas pouvoir se positionner tous de façon complètement différente sur ce sujet-là, et a fortiori, s'agissant de pays qui ont signé des instruments identiques au niveau de l'Union européenne.
Selon les quatre ONG requérantes, l'audience pourrait se tenir dans 1 ou 2 ans.
Merci Solène Cressant. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président du Conseil européen, Donald Tusk, et il dîne avec le Premier ministre portugais, António Costa. Le chef de l'État est toujours en campagne à quelques jours des élections européennes et dans l'espoir de mobiliser l'électorat, il a accordé cet après-midi un entretien à des journalistes de la presse régionale. Le message qu'il veut faire passer, la construction européenne apporte plus aux Français qu'ils ne le croient. Pour l'instant, le Rassemblement national et La République en marche sont au coude à coude dans les sondages, mais n'oublions pas qu'il y a au total total 34 listes en compétition. Pour tenter de vous aider à les départager, les médias continuent d'organiser des débats. Il y en aura un ce soir sur LCI, RTL et Le Figaro, avec d'abord les petits et ensuite les grands partis. Et d'autres débats sont annoncés en cette semaine décisive. Ils devraient donner lieu à quelques bras de fer, Steven Goyer.
Et on ne parle même pas des bras de fer entre candidats, mais bien de ceux entre candidats et médias. Certains veulent par exemple fixer les règles du jeu au rédacteur en chef, c'est le cas de la liste LREM, avec Pascal Canfin et Nathalie Loiseau qui se mettent justement dans la peau des rédacteurs en chef en réclamant des équipes de fact-checking, de vérification des faits en direct pour éviter les infox, comme on a pu déjà en entendre lors des précédents débats. Les chaînes en question, LCI pour ce soir, France 2 pour mercredi et BFM TV jeudi, ont déjà précisé que ces dispositifs étaient déjà en place ou prévus pour l'événement. Une manière de dire merci, mais on ne vous a pas attendu. Et puis il y a la question du débat de France 2 ce mercredi, question épineuse s'il en est pour plusieurs participants conviés justement à jouer d'après eux les seconds rôles en deuxième partie de soirée sur un plateau qui regroupera les représentants des dites petites listes mises à l'écart, donc des discussions entre le top 6 selon les sondages, France Insoumise, PS, Europe Écologie, La République En Marche, Les Républicains et le Rassemblement National. Nicolas Dupont-Aignan a déjà annoncé son intention de ne pas s'y rendre. Benoît Hamon, de son côté, devrait se faire remplacer. Les deux hommes retrouveront Jean-Christophe Lagarde pour un pré-débat sur Internet à partir de 18h. La technique du forcing avait déjà fonctionné pour le premier débat des européennes début avril. France 2 avait finalement cédé en rajoutant 3 cartons d'invitation, mais ça, c'était avant la validation des listes pour ce scrutin. Et forcément, avec 34 représentants, la tâche serait sans doute plus compliquée.
Steven Goyer, les résultats des élections européennes seront-ils présentés et commentés sur France Télévisions ? Un préavis de grève vient d'être déposé pour dimanche et lundi par plusieurs syndicats du groupe audiovisuel public. SNJ, UNSA et CGC s'opposent au passage du journal national du soir de France 3, le Soir 3, sur la chaîne France Info, un projet qui devrait voir le jour à la rentrée prochaine. Serge Simino, journaliste à France 3 et délégué syndical au SNJ, est fermement opposé à ce projet.
Il faut quand même voir que sur l'année 2018, le Soir 3 sur la 3, c'est en moyenne 585 000 téléspectateurs, avec des pointes à près d'1,5 million lorsque c'est programmé derrière le capitaine Marlowe. Aujourd'hui, le créneau de France Info, qui démarre certes et qu'on espère voir se développer, c'est entre 25 et 30 000 téléspectateurs. On a un vrai problème dans cette affaire, c'est que c'est une décision politique interne qui, pour renforcer France Info, qui est un peu à la peine et on le regrette, eh bien, on préfère sacrifier un symbole de France 3, qui est le Soir 3 depuis près de 40 ans. Pour les journalistes de la 3, mais aussi pour l'ensemble du service public et bien évidemment pour notre public fidèle, c'est un sacrifice que l'on ne peut accepter. Et dernier point qui est quand même assez cocasse, c'est que on a appris aujourd'hui que libérer la case du Soir 3 sur France 3, ce serait pour mettre des émissions qui viennent de France O, qui va fermer en 2020. Donc vous voyez, on est dans un jeu de taquin qui n'a rien d'un jeu et qui n'est pas du tout taquin. Donc voilà, on est très inquiet pour les équilibres internes à France Télévisions et on voit déjà que les premières victimes, c'est la 3, on sait que France O va fermer en 2020, donc voilà. Et puis fermer une édition d'information, pour nous, c'est, vous imaginez, pour des journalistes, c'est la pire des choses qui soit.
Serge Simino répondait à Fiona Mogadam. L'extrême droite s'apprête à quitter le gouvernement autrichien après la diffusion d'une vidéo montrant le leader nationaliste Heinz Christian Strache disposé à se compromettre avec la Russie. Le chancelier a demandé le départ du ministre de l'Intérieur Herbert Kickl, qui appartient lui aussi au FPÖ. Si ce limogeage est confirmé, le FPÖ prévient qu'il retirera tous ses ministres du gouvernement de coalition. Ce scandale autrichien éclabousse l'extrême droite européenne et braque de nouveau les projecteurs sur l'argent russe dans la politique européenne. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Aurélie.
En France, on a vu les difficultés du Rassemblement national à emprunter, à boucler le financement de ses campagnes. Les difficultés sont-elles les mêmes pour les autres partis populistes européens et est-ce que la Russie vient vraiment à leur secours ?
Eh bien, le panorama est contrasté. Il y a eu, côté français, effectivement, ces prêts contractés auprès de banques russes par le Front National en 2014. Désormais, la loi française l'interdit. Mais Moscou s'est aussi fait le financier de petits mouvements populistes qui n'ont pas accès au financement public. C'est le cas en Slovaquie, par exemple, dès les années 90, voire en Lettonie et Estonie, où sont présentes de fortes minorités russophones. Les banques russes installées à Chypre peuvent aussi faire le lien avec des mouvements d'Europe du Sud, comme en Grèce ou en Bulgarie. Mais tous les populistes européens ne regardent pas Vladimir Poutine avec les yeux de chimène, comme le rappelle Philippe Poirier, professeur de sciences politiques à l'Université de Luxembourg.
cette stratégie bancaire russe qui ne doit pas être découplée de la stratégie américaine en contrepartie, n'a aucun point d'appui, par exemple, dans les États scandinaves ou en Pologne, pour des raisons absolument historiques, c'est-à-dire tout parti souverainiste ou nationaliste qui viendrait à s'acoquiner d'une manière ou d'une autre, même à travers un simple prêt avec une banque russe, serait déconsidéré et illégitime dans son système politique. Donc c'est partiel, cela répond à certains besoins de certains partis. Par contre, il y a un contexte qui peut favoriser ce type de rapprochement sur des questions de stratégie, d'idéologie et de géopolitique.
Il n'y en effet pas que les financements directs en Italie. Par exemple, Forza Italia, du temps de Berlusconi, entretenait un partenariat commercial étroit avec la Russie, notamment en matière énergétique. Proximité géopolitique, intérêts stratégiques convergents, rien de nouveau sous le soleil. L'Union soviétique a ainsi longtemps financé les partis frères, quand les démocrates chrétiens ou les libéraux européens cherchaient plutôt appui de l'autre côté de l'Atlantique. L'Europe reste un terrain d'influence prisé pour les États-Unis comme pour la Russie, et les partis souverainistes de droite comme de gauche font partie de ces relais privilégiés.
Marie-Pierre Vérot, le nouveau président ukrainien a prêté serment. Volodymyr Zelensky a aussitôt prononcé la dissolution du Parlement et convoqué des élections législatives anticipées. Il espère ainsi obtenir une majorité, alors que l'actuelle Assemblée est dominée par les partisans de son prédécesseur, Petro Poroshenko. Ils ont peur de voir rester au pouvoir le système qu'incarnait Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants mobilisés depuis 13 semaines en Algérie sont de plus en plus nombreux à réclamer un report de l'élection présidentielle du 4 juillet. Mais l'armée le répète, il faut maintenir le scrutin. Les précisions de notre correspondante à Alger, Leïla Berato.
Les manifestants résument leurs revendications par un slogan. Qu'ils s'en aillent tous. Ce lundi, le chef d'état-major Ahmed Gaït Salah a déclaré que ces revendications étaient irrationnelles, non objectives, irraisonnables, voire dangereuses et malveillantes. Dans le même discours, il a réaffirmé que l'élection présidentielle du 4 juillet prochain se tiendrait pour éviter un vide constitutionnel. Et le chef d'état-major a évoqué l'installation d'une instance indépendante de surveillance des élections. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les Algériens qui manifestent répètent qu'ils refusent que cette élection ait lieu, car elle est organisée par ceux qui étaient déjà en place quand Abdelaziz Bouteflika était toujours en poste. Cette opposition à la tenue de l'élection semble si importante que des personnalités de la société civile et d'anciens responsables politiques ont appelé à reporter le scrutin, estimant que le maintenir serait un danger pour le pays. Mais le chef d'état-major semble bien déterminé à maintenir la présidentielle. Le délai légal pour le dépôt des candidatures expire cette semaine et plus de 70 personnes ont présenté un dossier au ministère de l'Intérieur.
Ford va supprimer 7000 emplois à travers le monde. Si le constructeur automobile américain veut se séparer de 10% de ses effectifs, c'est pour faire des économies et pour s'adapter au déclin des ventes de certains de ses modèles. Ce sont essentiellement les fonctions d'encadrement qui vont être concernées. Environ 800 postes vont être supprimés en Amérique du Nord, le reste en Chine, en Amérique du Sud et en Europe. Les explications de Grégory Phillips à Washington.
À l'automne, le PDG de Ford, Jim Hackett, en poste depuis 2 ans, avait été très clair. Il a été choisi pour restructurer l'entreprise et lui faire économiser environ 11 milliards de dollars. C'est dans le cadre de ce plan de restructuration que le second constructeur automobile américain, derrière General Motors, annonce donc la suppression de ses 7000 emplois, sans préciser pour l'instant les pays touchés. Mais on sait que la réorganisation visera surtout les cadres. Hackett veut faire de Ford une entreprise plus agile, avec des procédures de décision accélérer. Ford veut aussi se concentrer sur les modèles les plus populaires, les pick-up, les SUV, et pourrait arrêter ou ralentir la production de certains modèles, le tout dans un contexte d'inquiétude des constructeurs automobiles américains, alors que la Maison-Blanche est en plein bras de fer commercial avec Pékin.
Le plan de paix américain au Proche-Orient se précise, du moins dans sa méthodologie. La Maison-Blanche a confirmé une approche en plusieurs phases. La première sera économique. Une rencontre est programmée les 25 et 28 juin à Bahreïn. Les Américains semblent vouloir avancer par incitation, mais l'accueil est glacial côté palestinien, Étienne Monin.
Chez les Palestiniens, il y a d'abord eu un temps pour digérer cette annonce, puis une série de déclarations de plus en plus froides. Le proche de Mahmoud Abbas, Ahmed Majdalani, promet le boycott de cette initiative. Le nouveau Premier ministre a souligné qu'il n'avait pas été informé. Et le porte-parole du président palestinien prévient qu'il n'y aura pas de paix sans horizon politique. C'est la limite de cette initiative américaine. Elle semble procéder par étapes. On va d'abord parler économie, puis on verra à une date non précisée le volet politique, sachant que la période de la pré-campagne américaine, après l'été, risque de reporter encore une prise de position sur ce délicat dossier. Les Américains présentent ce volet économique comme une vision. Ils souhaitent des investissements et des projets pour la Cisjordanie, Gaza et la région. L'Europe et les pays du Golfe sont invités. La rencontre de Bahreïn aurait lieu au niveau des ministres des Finances. Il n'y a pas pour l'instant de commentaires en Israël. Cette initiative est fragilisée par le manque de confiance entre Américains et Palestiniens. Depuis la reconnaissance de Jérusalem, Donald Trump suit les marqueurs de la droite nationaliste israélienne. Il est accusé par les Palestiniens de vouloir acheter leur consentement autour d'un plan dit de paix qui serait fortement déséquilibré.
Demain mardi, le temps devrait légèrement s'améliorer. La journée commencera tout de même souvent sous un ciel gris et il pleuvra du nord-est aux Alpes du Nord et au Massif central. Mais l'après-midi, nuages et éclaircies alterneront avec encore quelques ondées. Les températures varieront le matin entre 6 et 14 degrés. L'après-midi, 17 à 20 degrés pour les maximales jusqu'à 25 sur les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.